première, tout autre chose.
Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de ce tout autre chose. Jusqu'à 11h, nous allons donc parler sommeil. Ce n'est plus un secret, un mauvais sommeil peut avoir des conséquences sur les petits gestes du quotidien, sur notre humeur, et même notre humour aussi d'ailleurs, etc. Mais qu'en est-il sur le plan neurologique? Comment peut se traduire un mauvais sommeil dans notre cerveau? Qu'est-ce qu'un mauvais sommeil d'ailleurs? Quels sont les troubles du sommeil les plus perturbateurs d'un point de vue neuro? Et à l'inverse, comment les pathologies neurologiques influencent-elles notre sommeil? Est-ce important d'avoir un bon sommeil pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer par exemple ou ayant Parkinson? Réponse aujourd'hui avec le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver, neurologue, neuropsychiatre et spécialiste de la réadaptation fonctionnelle. On en parlera aussi avec nos auditeurs et leurs questions au 02 737 26 06 02 737 26 06. Vous pouvez également nous joindre via le site lapremière.be. Vous cliquez sur l'icône de l'émission et vous remplissez la petite fiche en bas de page ou un message par SMS au 60 31 50 centimes le message. Toute l'équipe est là bien sûr et on commence avec ces quelques questions finalement assez simples sur le sommeil qui ont été posées à l'occasion de la journée mondiale du sommeil avec les réponses cette fois du docteur Sylvie Royan-Parola qui est psychiatre neurobiologiste spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Elle répondait notamment à cette question toute simple: le sommeil, ça sert à quoi?
Depuis 10 ans, il y a vraiment eu des choses assez extraordinaires en termes de recherche pour comprendre à quoi sert le sommeil. Et à quoi on arrive maintenant? Eh bien, on se rend compte que non seulement le sommeil sert à récupérer des fonctions mentales pour bien être alerte et efficace le lendemain, mais qu'en plus, il a des fonctions pour le coup physiques. Alors en termes de croissance, par exemple chez l'enfant, il aide à grandir, puisque pendant le sommeil profond, on fabrique de l'hormone de croissance. Pendant aussi le sommeil, on va régénérer les cellules, on va régénérer tous nos stocks d'énergie. Donc ça veut dire qu'on se reconstitue, on se reconstruit. On s'est aperçu aussi que le sommeil avait des fonctions en termes d'équilibre des défenses immunitaires. Et globalement, on se rend compte qu'une privation de sommeil, même assez brève, une nuit de privation de sommeil,
ça fragilise.
Va fragiliser. On s'était aperçu déjà auparavant que quand les animaux étaient privés de sommeil, puisqu'on faisait des travaux de cet ordre, si on allait vraiment jusqu'au bout de la privation, on voyait les animaux à ce moment-là qui décédaient dans un état d'infection et d'hyperthermie qui était tout à fait surprenant. Et bien chez l'homme, à minima, on se rend compte qu'on est à ce moment-là beaucoup plus sensible à tous les virus, à tous les microbes qui passent si on a une privation de sommeil. Autre chose qui est importante, c'est que le sommeil sert à réguler notre métabolisme et en particulier, on n'assimile pas les aliments et on ne, disons, métabolise pas les aliments de la même façon selon comment on dort. Et on s'est rendu compte que si l'on est en privation de sommeil, à ce moment-là, on a tendance plutôt à mettre en route tous les mécanismes qui vont favoriser le stockage et donc grossir. Et ça, c'est particulièrement vrai chez l'enfant. On s'est aperçu que chez les enfants qui ne dormaient pas suffisamment, qui étaient privés de sommeil du fait des conditions de vie ou bien parce que les parents ne faisaient pas attention aux besoins de sommeil de l'enfant, ce sont des enfants qui vont avoir une obésité qui va se déclencher après.
Quelques-unes donc des fonctions de ce sommeil et il reste encore plein de choses à découvrir puisque des études sont encore en cours pour essayer de bien comprendre les fonctions de ce sommeil. Mais comme elle le disait et vous me l'avez justement aussi rappelé, docteur Gillin, c'est vrai qu'on a fait des expériences avec l'homme qu'on a privé de sommeil pendant 11 jours. Vous vous dites on s'est arrêté 11 jours parce que déjà ça allait loin, il perdait la boule. Avec les animaux, les chercheurs ont eu un peu moins de scrupules donc ils ont poussé vraiment l'expérience jusqu'au bout et l'animal meurt en étant privé de sommeil et parfois de manière assez rapide. Donc, le sommeil est essentiel.
Oui, le sommeil est essentiel et c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment le rappeler dans notre société actuelle. J'ai l'impression que les gens imaginent que l'essentiel de leur vie, c'est ce qui est conscient. Et donc, le sommeil sert un petit peu à récupérer, entre guillemets, ce qu'ils ont fatigué la journée. Et en fait, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est la fonction la plus essentielle que nous ayons et qui nous permet, elle, de vivre notre journée. C'est Shakespeare qui a dit que c'était l'aliment suprême du festin de la vie. Et c'est extrêmement vrai. C'est une fonction physiologique tout à fait fondamentale. Elle nous permet non seulement de, entre guillemets, récupérer notre fatigue, mais comme le disait très bien cette collègue, elle nous permet aussi vraiment de programmer tout notre fonctionnement, non seulement psychique, cognitif, intellectuel, émotionnel, mémoire, mais aussi corporel. Mmh. L'équilibre métabolique dépend essentiellement de la qualité de notre sommeil. Et ça, c'est fondamental, et c'est fondamental à entendre, et notamment chez les enfants, comme elle l'a dit, puisqu'actuellement, le sommeil, malheureusement, n'a plus sa place de choix. Et 60% des troubles du sommeil chez l'enfant sont dus à mauvais conditionnement de la part des parents. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment rétablir cette fonction absolument essentielle au développement humain, au développement vraiment global.
Et une chose aussi que vous m'avez rappelé, qui est essentielle, c'est que dormir, ça s'apprend. Il y a une part d'inné, mais ça s'apprend aussi, parce qu'il faut apprendre à respecter son rythme, à respecter son corps, les signaux aussi, et à comprendre son propre sommeil. Donc il y a une part d'apprentissage qu'on oublie totalement et qui devrait être inculquée dès l'enfance.
Tout à fait. C'est un petit peu comme toutes les fonctions vitales, si vous voulez. Pour manger, vous pouvez aussi vous dire, tiens, je vais laisser l'enfant se débrouiller, il mangera quand il a faim et ce qu'il voudra, et vous verrez qu'il ne fonctionnera pas correctement. Vous devez aussi lui apprendre à manger au niveau du choix des aliments, des quantités, des horaires, etc. Au niveau du sommeil, c'est pareil. C'est vrai que c'est une fonction physiologique qui va, à un moment donné, s'imposer, mais en même temps, c'est tellement essentiel de l'inclure dans notre rythme qu'on appelle circadien, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit. Pourquoi ? Parce que le sommeil dépend principalement de deux choses. D'une part, de la dette de sommeil qu'on accumule dans la journée, bien sûr, la dette de fatigue qui, à un moment donné, va vous dire « au secours, il faut vraiment que tu te reposes ». Et puis de ce qu'on appelle la régulation circadienne qui est homéostatique, qui est vraiment notre programmation. Notre corps fonctionne finalement sur 24 heures, en fait 24 heures 20. C'est un petit peu compliqué pour lui pour le moment. Voilà. Voire même 25 heures quand on met les gens dans des grottes, vous savez, indépendant de tout stimuli extérieur. Et cette rythmicité est très très importante parce que tout notre corps biologique fonctionne sur ce rythme. C'est-à-dire que nous, par exemple les hormones, on n'a pas une espèce de diffusion continue de toutes les hormones. Elles se sécrètent à des heures bien particulières. Et donc, si vous n'avez pas un rythme correct dans votre corps, le corps ne va pas s'y retrouver. Et comme disait cette collègue, par exemple, l'enfant grandit surtout s'il dort tôt, d'un bon sommeil lent profond, parce que c'est durant ce premier sommeil lent profond qui doit être assez tôt dans son cycle à lui, qu'il va vraiment sécréter son hormone de croissance. Mmh. Et pour nous adultes, le taux de cortisol, le taux d'hormone thyroïdienne, le taux d'insuline, la régulation très très précisément, comme elle l'a dit, de l'équilibre glycémique et donc de notre poids, se fait vraiment par un sommeil correct. Et cette rythmicité, cette horloge biologique, parce que votre corps ne lit pas l'heure, il doit avoir des indicateurs de temps, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement. Et l'indicateur principal, c'est la lumière. Donc l'alternance lumière-obscurité est vraiment fondamentale pour votre corps, pour vous signaler où vous en êtes. Les seconds indicateurs, c'est la régularité des repas avec l'augmentation de la glycémie. Il y a bien sûr toutes les activités sociales, actives, intellectuelles. Et puis il y a bien sûr aussi les activités physiques, parce que jusqu'il y a peu, nous étions encore physiquement très actifs. Nous le sommes moins maintenant, mais c'était aussi des indicateurs d'alternance jour-nuit. Et faire respecter ça à un enfant et le lui apprendre, c'est vraiment fondamental. Alors il y a autre chose aussi que je voudrais repréciser dès à présent, c'est de rappeler aux parents que leur enfant n'est pas un adulte en miniature. Le corps n'est pas du tout terminé. Alors on trouve normal de mesurer sur une toise qu'il grandit, mais tout le cerveau grandit. Toute la maturation cérébrale veut dire que toute la circuiterie va se mettre progressivement, et ça n'est fini qu'à 17-18 ans, donc vous voyez qu'on a le temps. Mais surtout les 10 premières années sont absolument fondamentales. C'est à ce moment-là que tous les apprentissages, que ce soit l'apprentissage de la vie globale et les apprentissages scolaires, etc., va s'inscrire dans la circuiterie, et ça ne s'inscrit que durant le sommeil et durant certaines phases de sommeil. Donc il faut réhabiliter un sommeil correct qui doit être un sommeil tôt. C'est vrai que ça doit être avant minuit parce que c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est le moment dans lequel on, par rapport à ce cycle de 24 heures, dans lequel on dort.
Les enfants n'ont pas non plus cette faculté de comprendre qu'ils ont ce qu'on appelle le train du sommeil. Mm-hmm. On dit parfois, j'ai raté le train du sommeil, du coup je suis plus fatiguée, j'arrive pas à aller dormir. Mais eux n'ont pas la faculté non plus de déterminer ce train du sommeil, d'où parfois l'intérêt de les mettre peut-être plus tôt au lit, quitte à ce qu'ils jouent un peu dans leur lit, mais qu'on n'attende pas le dernier moment, qu'on n'attende pas le moment où eux disent, j'ai sommeil.
Tout à fait. Ah oui.
Parce qu'ils ne savent pas, eux, au fond.
Oui, et puis en plus, vous avez raison, dans le sens qu'au moment où on dit j'ai sommeil, le train est déjà là. Ouais. Or, quand vous allez prendre un train, vous ne vous dites pas le train est à minuit, vous regardez votre montre, il est minuit, j'y vais. Parce que le temps que vous arriviez à la gare, il est parti, le train. Donc ça, c'est clair qu'il faut apprendre à reconnaître cette espèce de coup de pompe, cette invitation au sommeil, qui en fait est un début de cycle. Donc on doit déjà être au lit, vous avez tout à fait raison, pour pouvoir le prendre et enclencher des cycles. Pourquoi ? Parce que si on laisse les cycles s'enclencher de façon naturelle comme ça, justement, la rythmicité se met mieux en place. Alors le sommeil, c'est quoi ? Effectivement, c'est une activité cérébrale tout à fait particulière, qui est tout à fait différente de celle de la journée, où on a à peu près 4 à 6 cycles selon les gens, de 5 stades de sommeil. Et ces stades sont des manifestations à l'électroencéphalogramme, donc l'enregistrement électrique du cerveau, qui sont différents et qui doivent se succéder et qui vont avoir des proportions différentes en début de nuit et en fin de nuit et qui d'ailleurs vont évoluer avec l'âge. Il y a une modification de la qualité du sommeil avec l'âge. Alors, si je peux faire un pont directement avec les maladies neurologiques, quand je dis qu'il est essentiel que l'enfant dorme bien pour inscrire tous ses apprentissages, souvent, la médecine, les maladies nous donnent la preuve, si vous voulez, de la pertinence des fonctions vitales. Il existe une forme d'épilepsie chez l'enfant qui est une épilepsie nocturne. Ouais. Une épilepsie dite cognitive parce qu'elle altère les fonctions intellectuelles, qui peut ne pas se traduire par des manifestations épileptiques la journée, qui consiste en des décharges épileptiformes très très anormales durant le sommeil lent profond, surtout des premières parties de nuit chez l'enfant, et qui se manifeste cliniquement par quoi ? Par un enfant qui change de comportement, de caractère, et surtout qui perd des apprentissages qu'il a déjà eus, que ce soit au niveau des apprentissages scolaires, mais aussi du langage, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à un tel point qu'on peut avoir des enfants qui deviennent aphasiques, autistes, déments. Donc, c'est bien la preuve que c'est la nuit que s'inscrit tout cet apprentissage cognitif et intellectuel et que la mémoire de tout ce que nous faisons en journée s'inscrit. Donc cette pathologie-là, qui est absolument dramatique, qui s'appelle l'épilepsie à pointe onde continue du sommeil lent, est bien la preuve qu'il faut laisser les enfants dormir à bonnes heures et pendant justement le temps suffisant.
Et qui est difficile à déterminer, si ce n'est par ces changements de comportement un peu particuliers, de perte d'apprentissage. Parce que la nuit, vous n'êtes pas évidemment près de votre enfant pour voir s'il dort bien toute la nuit.
Oui, et puis on peut ne pas le voir. Oui. Il n'y a pas toujours des manifestations épileptiques. Voilà, d'accord. Non, c'est pas des décharges épileptiformes. Une autre pathologie de l'enfant assez fréquente, on en a parlé dans des émissions, c'est le trouble déficitaire de l'attention, vous vous rappelez. Et là, il y a aussi une accentuation du problème du trouble de l'attention parce que ce sont des patients qui ont un retard de sécrétion de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Alors normalement, on a tous une mélatonine qui commence à monter, le taux sanguin monte vers 19h, un petit peu plus tôt chez l'enfant, et cela dépend de la... Ça doit être corrélé, si vous voulez, à la diminution de la température corporelle, donc il faut être calme le soir, et à la diminution du cortisol, l'hormone un petit peu de la présence de l'excitation. Ouais. Les gens qui souffrent de troubles déficitaires d'attention ont un retard de sécrétion de la mélatonine. Et par définition, ce sont des enfants qui n'ont vraiment pas du tout envie d'aller dormir. Et c'est logique pour eux parce qu'ils n'ont pas la sécrétion hormonale. Et donc, c'est aussi une preuve que des perturbations comme ça, biologiques, on avait parlé de ce qui se passait chez le trouble déficitaire d'attention, peut vraiment entraîner une déstructuration et une cascade des symptômes la journée.
Là, on parle de l'apprentissage chez l'enfant. On peut noter aussi que chez l'adulte, l'adulte a de plus en plus tendance à négliger son sommeil, dans le sens où, quand il a des perturbations de son sommeil, il met très vite et très souvent ça sur le compte d'une anxiété temporaire, un stress au travail, ou le fait qu'on soit dans une période de l'année aussi. On entend souvent les gens vers février, comme ça, dire « je suis fatigué ». Donc, Et on ne va pas plus loin.
C'est vrai.
Et au fond, on devrait être beaucoup plus attentif aux petites perturbations de son sommeil parce que ça peut être des éléments très importants de pathologies qui vont se développer par la suite.
Absolument. Il faut être très très vigilant à la bonne qualité de son sommeil. D'une part, par le respect, comme vous le disiez tout à l'heure, de cette fonction et l'observation de la mise au lit. Et en même temps, effectivement, toute perturbation ne doit pas être négligée. Et on est dans une société où les gens courent, ils sont tellement actifs et puis... à la fois par l'accumulation de leur dette de sommeil la journée, mais aussi le soir. Qui ne va pas terminer ses programmes, qui ne va pas travailler sur son ordinateur le soir, ou bien regarder enfin l'émission qu'il voulait absolument voir, qui se termine très très tard, au profit de quoi ? Au profit de quoi ? On peut se poser la question. Et c'est vrai qu'il faut être attentif. Alors, il y a non seulement les troubles du comportement de mise au lit, mais il y a d'autres choses aussi. Et effectivement, quelqu'un qui, par exemple, se réveille crevé le matin, qui se traîne la journée, qui bâille beaucoup, qui commence à être un peu déprimé, un peu triste, on va lui dire « Oh, t'es dépressif ou t'es en burn-out ». Il peut avoir autre chose. Il peut avoir un syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, qui est quand même une pathologie extrêmement fréquente et qui peut ne se traduire que par ça, la journée. Il peut être victime d'une narcolepsie, qui est une maladie volontiers génétique d'ailleurs, où ça se traduit par des périodes d'hypersomnolence, parfois même d'endormissement itératif pendant quelques minutes, de troubles du comportement parfois, et on n'y pense pas. On n'y pense pas. Il faut être très très vigilant. Il faudrait vraiment considérer le sommeil comme aussi essentiel que, je sais pas moi, aller voir son cardiologue, aller voir...
Mais est-ce que le problème, c'est pas justement... Et je ne mets absolument pas en cause les médecins généralistes, hein, parce que c'est quand même le premier médecin
Bien
qu'on
sûr.
Va aller voir. Est-ce que dans l'esprit des gens, il n'y a pas ce problème aussi de se dire, si je vais chez mon généraliste pour lui dire que je ne dors pas bien, il va juste me donner quelque chose pour m'aider à dormir, et ça ne va pas aller plus loin. Et de se dire que pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à faire des tests parfois plus approfondis, il faut déjà attendre assez longtemps d'être conseillé par son médecin généraliste, de pouvoir prendre un rendez-vous, d'avoir de la place pour ce rendez-vous. Et finalement, ça décourage un peu les gens.
C'est vrai, je pense qu'il y a toute une éducation à faire, tant pour la population que pour les médecins. Mais bon, la médecine du sommeil est quand même assez récente.
Ouais.
L'examen du sommeil, qu'on appelle la polysomnographie, s'est développé au début des années 80, donc... C'est très très tôt, c'est très récent dans l'histoire de la médecine. C'est vrai qu'il y a maintenant des somnologues, hein, comme on les appelle, et tant mieux. Mais en même temps, il faut faire l'éducation de tout le reste de la population médicale, dont les généralistes certainement, puisque eux doivent connaître de tout dans tout. Mais comme vous dites, ça va être les premiers à accueillir les patients et à les entendre. Et effectivement, il ne faut pas banaliser une plainte de sommeil. Alors, il y a quand même fréquemment des troubles du comportement de mise au lit ou des anxiétés, comme vous le disiez, qui parfois peuvent être régularisés par des conseils comportementaux et éventuellement un petit médicament transitoire. Mais là, vous avez parfaitement raison, c'est que je me bats contre les prescriptions sans cesse renouvelées, sans se poser des questions. Ça, c'est tout à fait dramatique. Il faut vraiment, à un moment donné, vraiment se dire, bon, pourquoi mon patient ne dort pas bien ? Il y a une raison spécifique et c'est cette raison-là qu'il faut résoudre et non pas simplement prescrire, entre guillemets. Parce qu'au niveau, justement, des médicaments hypnotiques, la grande majorité qui est prescrite, ce sont les benzodiazépines. Or, les benzodiazépines déstructurent la qualité du sommeil. C'est vraiment pas du tout un traitement qu'on doit garder au long cours. C'est très dangereux, je me permets de le dire. Ça doit être des traitements d'appoint qui peuvent effectivement, pendant quelques jours, aider à passer une situation. Mais donc, c'est vrai qu'il faut au départ aller chercher le symptôme et la cause.
On a déjà beaucoup de questions hein, qui nous arrivent, on va essayer de répondre parce que certaines vont pouvoir nous amener justement à développer ce dont on voulait parler en parlant des ponts entre le sommeil et les pathologies neurologiques. On en parle aussi avec nos auditeurs donc au 02 737 26 06 ou par courriel via le site lapremière.be. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par SMS au 60 31 50 centimes. Le message comme l'a fait Annette. Comment expliquez-vous que des individus se contentent de 3 à 5 heures de sommeil par nuit ? Ils présentent même le sommeil comme une perte de temps. Je voudrais que vous rétablissiez enfin la vérité. En face de ces gens, je me trouve parfois complètement décrédibilisée ou out, nous dit Annette. Alors c'est vrai qu'on n'est pas... Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus une grille spécifique du sommeil en disant la nuit, il doit se passer ça pour dire que vous avez un bon sommeil. Parce qu'on n'est effectivement pas égaux devant la durée nécessaire à notre corps pour pouvoir effectuer toutes ces fonctions
Absolument.
Liées au sommeil.
Absolument. Bah, vous savez, il y a des gens, par exemple, sont capables de courir, faire un jogging de 3 heures et d'autres personnes, au bout de 20 minutes, qui tirent la langue. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas égaux dans notre fonctionnement. Alors, autant c'est exact qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de la même durée de sommeil, autant ça n'est jamais une perte de temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Au contraire, c'est une fonction absolument vitale. Donc, les gens qui disent ça, c'est dommage. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être bien heureux, je ne sais pas, mais qui peuvent effectivement parfaitement fonctionner avec peu d'heures de sommeil. Ce sont des gens, quand on fait des polysomnographies, qui ont la chance, effectivement, d'avoir des stades de sommeil rapidement bien inscrits et extrêmement récupérateurs. Et il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs. C'est tout à fait exact. Par exemple, Einstein dormait 11 heures par nuit. Napoléon dormait 3 heures par nuit. Maintenant, je pense qu'ils ont fait d'autres choses dans la vie. Je préfère... voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails oui. philosophiques.
Ne comparons pas tout.
Voilà. Mais... Le but, c'est que vous sentiez que quand vous vous réveillez, vous êtes frais et que la journée, vous fonctionnez correctement. Alors, c'est que vous avez un bon sommeil. Maintenant, ce nombre d'heures, par contre, doit s'inscrire dans une rythmicité correcte. Des gens qui me disent, vous savez, moi je dors 8 heures, il n'y a pas de problème, mais c'est de 2 heures du matin à 10 heures du matin, ils ne sont jamais aussi fonctionnels, dans le bon sens du terme, que ceux qui feraient ces 8 heures plus tôt. Oui. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est de faire les examens neuropsychologiques, c'est-à-dire d'étudier la fonction du sommeil, et aussi des études par PET scan, vous savez, les scanners à positrons qui permettent de voir le fonctionnement global du cerveau, et ça c'est l'équipe de Maquet à Liège qui l'a fait, tant par les examens neuropsycho que par le PET scan, on voit très très bien que des mêmes personnes, de même âge et même niveau intellectuel, les uns qu'on laisse dormir, les autres qu'on prive de sommeil après un apprentissage, ne vont pas du tout rendre la même chose. Même s'ils ont l'impression qu'ils se débrouillent pas si mal quelques jours ou quelques semaines après la privation de sommeil, le rendement est beaucoup moins efficace. Et alors quand on fait les contrôles après 6 mois, chez ceux qui n'ont pas dormi, il n'y a plus rien. N'oubliez pas que c'est la nuit qu'on met en mémoire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on apprend. Toujours, toujours, toujours. La journée, vous ne faites jamais que mettre sous fichier enregistré en attente, si vous voulez.
Ah oui.
Et c'est vraiment la nuit, pendant le premier sommeil lent profond, que vous allez graver. Et puis c'est en deuxième partie de nuit, pendant votre sommeil paradoxal, qui est plus abondant en deuxième partie de nuit, que vous allez classer. Et ça, c'est essentiel. Et ça se voit aussi, pour faire un pont directement chez les patients qui développent des maladies démentielles, ils ont des altérations significatives de leur stade de sommeil et de leur alternance journée-nuit. Une maladie d'Alzheimer installée est quelqu'un qui va tout à fait déstructurer cette alternance jour-nuit.
On a justement Guy qui demande, enfin qui dit, il semblerait que la bipolarité se manifeste aussi par des phases de besoin de sommeil totalement désorganisées, allant de l'hypersomnie à des activités continues sur plusieurs jours sans aucune fatigue apparente. Et il demande quelles en seraient les causes, ou est-ce une déstructuration du sommeil qui peut conduire à la bipolarité? Donc est-ce que c'est la bipolarité qui, ou c'est un bluff de poule?
C'est-à-dire que ce dont il parle, cette excitation, on ne dort pas du tout, c'est la phase maniaque de la bipolarité. Donc quelqu'un qui souffre de troubles bipolaire, c'est quelqu'un qui alterne des phases dépressives, qui peuvent être parfois très profondes, où il est presque inerte, à des phases maniaques où au contraire, il y a une hyperexcitabilité, plein de projets, des dépenses excessives, des comportements excessifs également. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a souvent un manque de sommeil parce qu'il y a cette hyperexcitation qui se traduit par des décharges hormonales, dont le cortisol, par exemple, en permanence. Et donc, effectivement, pendant ces phases maniaques, ils ont très très peu de sommeil. Mais il faut traiter ce trouble de sommeil-là en traitant en fait la bipolarité.
Les questions qui nous arrivent sont nombreuses. On les reprendra comme celle de Sophie qui se demande si on peut dormir trop longtemps.
Oui.
C'est un sentiment qu'elle a.
Oui.
Et une autre question, mon mari ne sent pas les phases d'endormissement. Peut-on réapprendre à s'endormir quand on est adulte?
Oui.
Et enfin, Marie-Chantal qui nous dit comment arrêter de ruminer, d'avoir des pensées qui affluent alors qu'on a envie de dormir, comment tenir le coup quand on essaye des trucs comme se lever pour se distraire, mais impossible de se recoucher car l'esprit continue à carburer à 100 à l'heure. Comment rester de bonne humeur quand on manque de sommeil et que rien n'y fait? et comment juguler les tracas quand ils se ruent sur l'espace de liberté une fois que le travail est fini. Bref, au fond, c'est une hyperactivité avant le sommeil, alors que visiblement, elle aimerait bien dormir quand même, Chantal. Et on en parle dans quelques instants, on répond à ces trois questions. Nous parlons du sommeil avec le docteur Catherine Gillin, et nous parlons des ponts entre le sommeil et les maladies neurologiques. Et notamment, on parlera d'Alzheimer et de Parkinson, puisque quand on parle de neuro aujourd'hui, on pense essentiellement à ces deux maladies. Et on verra qu'il y a des choses à découvrir. Juste peut-être répondre à ces deux premières questions. Sophie nous disait, est-ce qu'on peut trop dormir?
Oui, oui, l'hypersomnie, bien sûr, ça existe. Alors, l'hypersomnie peut être d'origine organique, mais c'est dans certaines maladies particulières dont on a parlé, la narcolepsie tout à l'heure, ils ont une altération du sommeil, effectivement, mais c'est souvent d'origine plutôt psychologique, l'hypersomnie. Maintenant, pour répondre globalement à l'ensemble de cette question-là et brièvement, effectivement, on peut réapprendre à dormir si on veut bien accepter de revenir à cette fonction que j'ai presque envie de dire, dans le bon sens du terme, animale. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux peut-être élaborés, j'en sais rien, mais que nous avons ce fonctionnement biologique, en tout cas, c'est dans ce sens-là que je dis animal, que l'avènement de l'électricité a été une véritable catastrophe pour nous, puisque nous avons la lumière le soir et des stimuli le soir, et que depuis l'avènement de l'électricité, il y a à peu près une centaine d'années, l'être humain a déjà perdu 2 heures de sommeil, ce qui est absolument gigantesque, dont le corps n'a pas pu s'adapter. Et nous avons fondamentalement un mauvais comportement. Pourquoi ? Parce que nous bougeons, nous travaillons dans notre tête et dans notre corps beaucoup trop tard. Le soir, on est énervé, on est excité, on s'énerve sur les enfants qu'on doit mettre au lit, et puis on fait encore le dernier rapport qu'on devait faire, et puis c'est le seul moment où le couple se voit et commence à discuter de choses essentielles parce qu'ils n'ont pas eu le temps pendant la journée. Et donc, effectivement, que font les animaux quand ils vont dormir ? Eh bien, dès que le soleil diminue, ils se calment. Tous. Ils se calment, ils se détendent, ils cherchent leur petit endroit pour dormir. Et puis, ils attendent que le sommeil vienne. Et c'est ce qu'il faut faire. Le soir, nous devons avoir un comportement crépusculaire. C'est-à-dire que nous devons diminuer nos stimuli, tant intellectuels que physiques. Il faut chercher tout ce qui peut nous détendre plutôt que nous exciter dans tous les sens du terme, que ce soit les pensées ou le corps physique. Le match de squash à 10 heures du soir, c'est une aberration. Il ne faut pas faire du sport actif si tard. Pour que justement toutes ces hormones, comme je vous disais, se mettent en place. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut observer ces trains de sommeil qui sont personnels. Si vous sentez que vous vous endormez, que vous volontiez par exemple vers 10h15, il faut impérativement prendre l'habitude d'être au lit pour 10h, parce qu'alors vous prendrez votre train et vous aurez une très bonne nuit de sommeil. Et pour les gens qui ont vraiment du mal, ce qui peut vraiment les aider, c'est de se faire prescrire la mélatonine, hormone naturelle du sommeil. C'est pas un médicament, c'est vraiment sans danger. Et cette mélatonine permet au corps de se réinscrire, si bien sûr on a un comportement adéquat, dans une rythmicité beaucoup plus naturelle.
Moi, on me disait toujours de boire du lait chaud pour activer la mélanine, boire du lait chaud avant d'aller dormir. Moi, ça marchait, mais c'était peut-être dans la tête, évidemment.
Oui, alors, souvent, boire chaud aide pas mal aux gens. Maintenant, je ne conseille pas trop de boire non plus le soir, parce que les gens se relèvent pour faire pipi.
Bah, oui. C'est une toute petite tasse de rien du tout. Voilà. Pour bien se détendre. Mais c'est vrai qu'on parle des rituels de l'endormissement pour les enfants. Au fond, les adultes, ils en ont besoin aussi, de ces rituels d'endormissement.
Absolument.
Ils n'en rendent pas compte, mais le fait, par exemple, que des gens vous disent « Ah, moi, je ne peux pas m'endormir si je n'ai pas lu pendant 10 minutes. » Mais effectivement, ça fait partie des rites.
Ça fait partie des rituels. Et si cette personne-là doit lire 10 minutes, eh bien qu'elle le fasse, qu'elle se mette au lit, etc. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de réhabiliter le sommeil en se disant « Chic, je vais dormir. » En se disant pas du tout, c'est une perte de temps comme l'autre personne, mais au contraire, je vais, durant cette phase-là inconsciente, je crois que les gens ont peur de ça. Ils ont peur du fait qu'ils soient inconscients et donc qu'ils ne contrôlent pas, entre guillemets, mais laisser mon corps préparer mon lendemain. En fait, c'est ça qui se passe. Inscrire génétiquement aussi tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a la transmission génétique de nos comportements se fait justement par cette inscription durant la nuit. Et donc, laisser cette fonction vitale essentielle vraiment avoir sa bonne place et exister, et avoir un rapport positif au sommeil.
Alors, bien sûr, toute personne qui a des troubles du sommeil ne va pas développer une maladie neurodégénérative, mais on a quand même remarqué que les personnes atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer, par exemple, montraient déjà des signes de la maladie dans leurs troubles du sommeil.
Absolument.
Bien avant que la maladie ne se déclare elle-même.
Oui, oui. Quand on dit bien avant, ça je veux pas faire peur aux gens, mais 15 ans avant, à peu près. Hein.
Ah oui.
Oui. Maintenant, de toute façon, les maladies neurodégénératives, manifestement, se mettent en route 15 à 20 ans avant qu'il y ait vraiment une déclaration des symptômes cliniques. On sait pertinemment qu'une maladie d'Alzheimer qui se déclare vers 65-70 ans, par exemple, c'est déjà enclenché dans la quarantaine chez la personne. Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. On est dans des maladies extrêmement particulières où il y a l'association d'une susceptibilité génétique avec des facteurs environnementaux. C'est vrai qu'il y a un sens quand on sait que ces maladies déstructurent tout le fonctionnement neurobiologique du patient, qu'il y ait une perturbation de cette fonction aussi essentielle qui est celle du sommeil. Mmh. Et c'est vrai que plus on fait des études chez les gens que l'on suit comme ça pendant des années, plus on se rend compte que le sommeil est déjà perturbé des années avant. Alors, comme vous le disiez, toute personne qui dort mal ne va pas, évidemment et heureusement, développer des maladies neurodégénératives. Par contre, ce sont certains troubles relativement spécifiques que l'on rencontre et qui peuvent parfois être un argument pour nous cliniciens, si vous voulez. Et notamment, par exemple, dans les maladies telles la maladie de Parkinson et celles qui sont associées, qu'on appelle les Parkinson plus, c'est-à-dire où la dégénérescence est plus étendue, on constate cliniquement, là, pas par les enregistrements polysomnographiques, mais cliniquement, au moins 2-3 ans avant, qu'il y a des modifications durant le sommeil qu'on appelle les parasomnies. Alors les parasomnies, ce sont des troubles d'ordre verbal, comportemental, durant le sommeil. Et les gens qui ont ce type de maladie-là, 2 ou 3 ans avant, pendant leur sommeil paradoxal, donc en deuxième partie de nuit, pendant qu'ils rêvent, ils ont des comportements moteurs élaborés, souvent agressifs d'ailleurs. Donc le conjoint n'ose pas en parler. Le conjoint, la nuit, se fait taper dessus. Ils ont des grands mouvements des bras, parfois vraiment avec des scènes d'agression violente. Ils se lèvent, ils déplacent les meubles. Ces parasomnies sont vraiment majeures. Pourquoi ? Parce que plus on connaît la maladie, mieux on pourra aider le patient. Même très tôt. Donc les conjoints doivent oser le dire, mais je vous assure qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils sont gênés.
Mais puis bon, ça peut être aussi, ça peut être anodin quand ça vous arrive une fois de temps en temps. Vous vous dites, bah oui, ils ont un mauvais rêve ou quelque chose comme ça. On pense pas tout de suite que ça
bien
puisse
sûr.
Être un problème.
Mais si ça se répète et que c'est un comportement plus élaboré, c'est pas un simple coup.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment comme s'il avait en face de lui l'ennemi juré numéro 1.
Ah, c'est ça, c'est une vraie attaque nocturne. Ah, oui, oui. Oh, quelle horreur. Bon, j'en devrais parler. Revenons sur cette problématique des maladies. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire 15 ans à l'avance sur une grille de problèmes ou de troubles du sommeil que cette personne va effectivement développer 15 ans plus tard une maladie neurodégénérative. C'est un peu le problème parce qu'il faut encore cibler, encore rechercher plus précisément une grille de lecture quelque part.
Oui, sûrement. Et en même temps, moi je me pose la question en me disant, et si on le voit très tôt et qu'on régularise le sommeil de ces patients, est-ce que finalement ils vont développer la maladie neurodégénérative, voyez ? Je pense qu'il y a de ça.
Ah, c'est ça. Oh, d'accord. Il n'y a pas de lien encore de...
Voilà, par exemple, dans la maladie...
Un effet inéluctable, c'est ça que je veux dire.
Mais
c'est
oui, pas en fait, on n'en sait rien.
Ah,
on est en train vraiment de découvrir cette espèce de large grille, comme vous disiez. Et donc, pourquoi pas ? Est-ce que, donc, c'est une question que je pose, hein, c'est pas du tout une publication scientifique, mais est-ce que ce n'est pas éventuellement aussi une perturbation de cette fonction tellement vitale qui va finir par engendrer la maladie neurodégénérative ? Donc, quand on découvre quelque chose, quand on découvre un patient de 45 ans qui fait un syndrome d'apnée du sommeil sévère, qui est vraiment une épée de Damoclès épouvantable. Là, je vous promets, on peut en parler un petit peu. Si on le traite, peut-être qu'il va échapper à cette maladie neurodégénérative. Ce n'est pas impossible. Donc, ça vaut la peine de connaître pour traiter et puis suivre le patient pour voir ce qui va se passer. Mais quand vous voyez les perturbations absolument majeures au niveau métabolique, général du corps, mais aussi justement des fonctions mnésiques, quelqu'un qui a un syndrome d'apnée du sommeil, donc sans autre chose, à qui on fait des tests neuropsychologiques au niveau de l'attention, de la concentration, des différents types de mémoire, c'est complètement perturbé. vous réglez son syndrome d'apnée du sommeil, ça se récupère. Alors je vous dirais même plus. Il y a beaucoup, justement, d'Alzheimer chez qui on le voit. Donc, on fait le diagnostic de maladie en leur d'Alzheimer, on fait un examen du sommeil, on voit qu'ils ont un syndrome d'apnée, on corrige leur syndrome d'apnée. Figurez-vous que leur test neuropsychologique perturbé par l'Alzheimer s'améliore. Donc, ça a un sens. Et dans les états actuels, dans l'état actuel des choses que l'on connaît, je pense que ça a vraiment un sens de le reconnaître et de le traiter, parce que peut-être qu'on protège les gens.
C'est ça, ça sera intéressant de voir si effectivement la correction ne pourrait pas être efficace bien plus tôt.
Tout à
fait. Si elle était déterminée aussitôt.
Tout à fait. Et dans les maladies psychiatriques aussi. On parlait tout à l'heure des troubles bipolaires, il y en a d'autres. Donc ça a un sens de donner de la valeur à cette fonction, d'essayer de la régulariser le plus possible, parce que je suis convaincue. C'est la même chose pour les maladies cardiaques. Le cœur, la nuit, a des modifications fondamentales durant le sommeil normal.
Oui.
Tout le monde fait des troubles du rythme, des accès d'hypertension, enfin, il se passe vraiment des tas de choses impressionnantes. Dès qu'il y a une perturbation de la qualité du sommeil, ces troubles deviennent beaucoup plus importants et parfois graves. Notamment, si on revient au syndrome d'apnée du sommeil, toute personne qui a un syndrome d'apnée du sommeil, tout le monde développe de l'hypertension. Une hypertension sévère. Mmh. 60% font un infarctus du myocarde. Donc, au niveau des fonctions vitales aussi, ça a un sens de régulariser la fonction du sommeil.
Mmh. Au fond, il faudrait inclure l'idée chez les gens que bien dormir, ça a un effet préventif.
Absolument.
Sur plein de choses, finalement.
Absolument. Tout à fait.
Une bonne prévention dans la santé, de même que manger 5 fruits et légumes par jour, bah bien dormir, c'est aussi préventif.
Je crois qu'il faut d'abord bien dormir et puis peut-être manger 5 fruits et légumes. Mais
respecter.
Pas la vitamine C le soir. Hein.
Ah, c'est ça, ça devient plus délicat. Mais c'est, oui, donc pas d'orange et de mandarine le soir.
Non, après, la vitamine C est stimulante.
La télé, par exemple.
Non, elle est stimulante, oui.
Ah, oui,
pas de thé vert non plus.
Pas de thé vert non
mais
plus
non,
pour aller
j'ai
dormir.
Eu une gentille patiente un jour qui est venue me voir pour trouble du sommeil et puis je ne trouvais pas ce qu'elle avait et puis on papotait. Je lui demande toujours aux gens ce qu'ils font le soir et alors elle se détendait en buvant beaucoup de thé vert qui est hyper stimulant. Quoi. C'est bien pire que du café. C'était très très simple d'aider cette gentille dame. Dès qu'elle a arrêté de boire son thé vert, elle a bien dormi.
Ça a été beaucoup mieux. Alors, on a deux questions. Je vais rassurer tout de suite l'auditeur qui s'appelle Pascal Le, pardon, qui nous a parlé du fait qu'elle travaille la nuit pendant 20 ans. Mais on a une autre question aussi sur les travaux de nuit et d'un monsieur cette fois-ci qui demande si les travaux de nuit peuvent engendrer ou être un facteur favorisant des maladies neurodégénératives puisqu'on est dans un cycle perturbé cette fois.
J'ai pas de réponse. Je ne sais pas. C'est clair que c'est les gens qui travaillent la nuit et encore pire, les gens qui ont des horaires coupés. Je pense qu'au niveau vraiment du fonctionnement biologique du corps, c'est pas bon du tout.
Donc horaires coupés, par exemple, ça pourrait être une semaine je travaille la nuit, une semaine
oui,
je travaille le jour.
Les infirmières font ça, les ouvriers. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ou des horaires très très décalés. Vous travaillez une semaine de 5h du matin à début d'après-midi, puis l'autre semaine début de l'après-midi à pratiquement 10h du soir. Pour le corps, c'est épouvantable. C'est sûr que la régularité est ce qu'il y a de mieux pour le fonctionnement du corps. Là, il faudrait voir les études qui sont faites. Pour l'instant, ça montre surtout des perturbations au niveau des fonctions neuropsychologiques au sens large du terme. Sur les perturbations à très long terme et le déclenchement des maladies, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, je ne les ai pas. J'ai pas lu les études là-dessus personnellement. Mais oui, je pense qu'effectivement, on ne fait pas du bien.
Les problèmes d'endormissement, de nouveau, on a Monique qui nous dit « Mon mari s'endort systématiquement vers 21h devant la télé, mais lorsqu'il se couche ensuite, il se réveille plusieurs fois vers 2, 3 ou 4 heures du matin. Il se lève et reste devant la télé, puis il se rendort jusqu'à 6h30. Plus tard, s'il ne travaille pas le week-end. » Donc là, on a un sommeil très perturbé, c'est pas forcément bon.
Et ce monsieur devrait être au lit pour 21h.
Oui.
S'il a des trucs passionnants à la télé, qu'il les enregistre et qu'il les regarde un autre jour. Parce que s'il a un bon train de sommeil à 21h, c'est l'idéal en fait.
Et il se pourrait que là, du coup, il ne se réveille pas à 2h.
Il ne se réveillera pas. Par contre, il aura un réveil tôt. Mais comme je dis aux gens, pourquoi pas? Même s'il est 5h du matin, levez-vous. Là, vous pouvez être actif. Regardez votre émission, allez sur Internet, terminez vos travaux. Parce que le sommeil qu'il aura eu justement avant minuit sera tellement efficace qu'il sera en pleine forme.
Encore. scientifiques qui dorment bien, évidemment. On parlait des conséquences sur les maladies neurodégénératives, mais on a aussi une question par rapport justement à la maladie d'Alzheimer. Excusez-moi. Une personne qui demande si les personnes atteintes de cette maladie ont d'office sommeil perturbé, oui. Et comment réparer ce sommeil, oui, éventuellement chez ces personnes.
Oui, oui, tout à fait. Tous les Alzheimer ont un sommeil perturbé. Ils ont vraiment une altération totale de leur rythme circadien, avec apparition typique d'un syndrome crépusculaire qui est une agitation dès le soir et la nuit. Et ces patients se mettent à se lever et typiquement à ranger. Ils rangent, enfin, ils rangent pas efficacement malheureusement. Ils chipotent beaucoup, ils rangent et ça dure jusqu'à 2-3 heures du matin. Ils mangent aussi beaucoup la nuit. Et par contre, la journée, ils sont volontiers somnolents, pas mal de temps. L'idéal, alors ce qui se passe, c'est que la dégénérescence touche le noyau suprachiasmatique qui est vraiment le centre d'information jour-nuit. C'est ce noyau-là qui vous dit, tiens, il y a de la lumière, c'est la journée, tu dois être réveillé, tu dois être efficace, etc. Et donc, comme il y a une forte perte neuronale à ce niveau-là, il faut vraiment donner très très vite de la mélatonine à ces patients, parce que c'est vraiment très efficace chez eux, à dose relativement élevée d'ailleurs. Et alors, la journée, il faut essayer vraiment de les stimuler à la lumière. D'ailleurs, aux États-Unis, dans les homes, on vante la qualité des homes en disant on promène des gens dehors. Et en fait, ils ont raison. Il faut les mettre à la lumière du jour et pas les laisser comme ça dans des pièces pas très éclairées. Donc, il faut. Et si c'est l'hiver, il faut utiliser la luminothérapie. Donc, la journée, donner des shoots de lumière naturelle. Le soir, donner de la mélatonine. Et puis, bien sûr, essayer de leur donner quand même des stimulations, des activités la journée.
Mmh. On a une personne aussi qui note que souvent, avec l'âge venant, le seuil d'endormissement se fait de plus en plus tard. Et on a de plus en plus besoin de s'endormir aussi la journée.
Alors, le sommeil est une fonction qui évolue avec l'âge, comme tout. Vous trouvez normal de ne pas avoir le même fonctionnement cardiaque, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, en évoluant. Vous allez plus volontiers vérifier chez le cardiologue à partir de 60 ans qu'à 30 ans, c'est pareil. C'est vrai que l'on perd en qualité du sommeil, on perd en efficacité, on tombe quand même de 95% vers 25 ans à un petit 70% après 65 ans. Il y a aussi une différence dans les stades. On a beaucoup moins de sommeil lent profond avec l'âge, plus de sommeil superficiel. Et donc, c'est exact que la qualité est moins bonne. Alors, qu'on s'endorme plus tard ou plus tôt, ça dépend. Cette dame dit qu'elle a un sommeil de plus en plus retardé. Il y en a d'autres, au contraire, qui à 8 heures ne peuvent pas s'empêcher d'aller dormir et puis qui veulent des médicaments pour se rendormir à 2 heures du matin. Donc là, une fois de plus, c'est une question de comportement, apprendre vraiment un comportement correct, voire éventuellement de médication. Mais il faut suivre ça, mais savoir et accepter en tout cas qu'avec l'âge, théoriquement, on dort moins. Les épisodes de somnolence la journée, ça a un sens. Disons que je crois qu'il faut pouvoir accepter, par exemple, de programmer une sieste, mais il faut la programmer pour essayer justement de l'inclure dans un cycle et pas de se laisser happer par une sieste à un moment donné qui n'est pas désiré. Et le reste du temps, se forcer à être actif.
On parle beaucoup des micro-siestes, justement, en ce moment. Et on a une personne qui dit, à chaque fois que je fais la sieste, je me réveille, je ne me sens pas bien.
Il y en a d'autres, au contraire, qui vont être impeccables.
Donc, là aussi, c'est à l'écoute de
soi. C'est à l'écoute de soi, il n'y a rien à faire.
Donc, on n'est pas obligé.
Tout le monde ne bénéficie pas d'une micro-sieste, mais ceux qui font une micro-sieste, c'est du miracle.
Oui, c'est pas évident de juste se dire on va dormir 10 minutes. Et puis,
Il y a des gens, et on voit d'ailleurs que ce sont des gens qui tombent tout de suite en sommeil paradoxal, un peu comme les narcoleptiques. Et c'est vrai qu'ils dorment 10 minutes, un quart d'heure et qu'ils sont complètement frais et complètement reposés. Ben, tant mieux qu'ils l'utilisent. Oui. Mais ceux chez qui ça ne vient pas spontanément, qui ne forcent pas, ils ne vont jamais se sentir correct après.
On a deux personnes qui nous parlent d'AVC. Je vais reprendre un seul des deux témoignages. Oui. Une personne qui nous dit, à la suite d'un AVC, mon mari a récupéré une grande partie de ses fonctions motrices et autres. Mais depuis qu'il a eu cet AVC, il se réveille systématiquement toutes les nuits après chaque période de rêve, qui sont d'ailleurs souvent des cauchemars depuis cet accident. Est-ce qu'il peut y avoir un lien et peut-il réapprendre aussi à s'endormir ou à passer de meilleures nuits?
Alors, il y a un lien, certainement. C'est vrai que tout dépend, bien sûr, où l'accident vasculaire cérébral a eu lieu. puisque comme vous le savez, le cerveau est spécialisé, entre guillemets, mais quand même, très très souvent, les gens qui sont victimes d'un accident vasculaire cérébral ont un sommeil très perturbé. Petit pont de nouveau, quand même, le syndrome d'apnée du sommeil dont on parlait est un facteur de risque majeur pour l'accident vasculaire cérébral. Je vous l'ai dit pour l'infarctus, mais c'est exact aussi pour l'accident vasculaire cérébral parce que ça perturbe très très fort la tension artérielle. Mais je pense que le conseil à ce moment-là, c'est de faire un examen du sommeil chez cette personne victime d'accident vasculaire pour voir quelle est sa perturbation spécifique et donc apporter une réponse qui lui est personnelle. Parce qu'il n'y a pas une solution pour tous les accidents vasculaires. Il faut personnaliser le type de traitement qu'on va apporter à ce patient.
Et alors, Ange, on aura, ou alors peut-être, oui, on parle souvent des rêves par une réponse psychologique, mais y a-t-il une réponse neurologique aux besoins des rêves ou à la fonction des rêves ?
Oui, oui, oui.
C'est neurologique aussi ?
Oui. On refera une émission, je
oui,
pense.
Oui, d'accord. De toute façon, on a promis qu'on se revoyait en juin.
Oui.
On n'a pas encore le sujet de l'émission, mais on va se revoir en juin. Et on parlera peut-être de ça, qui sait. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans cette émission. Merci aux auditeurs d'avoir participé aussi.